dimanche, RVE, il est 9h.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette première émission de la rentrée. Alors c'est vrai que on est resté avec vous pendant tout cet été, le Tour de France, les Jeux Olympiques, les Championnats de France de pétanque sur Ambouillet. On vous a fait vivre ça sur l'antenne d'Hervé. On va revenir sur tous ces gros événements donc de cet été qui nous ont en tout cas ravis avec beaucoup de nos intervenants. On est ravis en tout cas d'accueillir pour cette première de la saison. Il était avec nous à l'occasion de la dernière de la saison. Il est encore avec nous parce qu'il est fan de foot, il est fan de VO, il est fan des Jeux Olympiques. C'est notre ami Jean-Paul Garfa. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Et puis merci d'être venu Jean-Paul.
Oui, je voulais juste faire un petit... Je voulais dédicacer l'émission à mon papa qui est décédé hier matin, qui m'a fait aimer le sport. Alors je lui dis salut papa et merci pour tout.
Voilà, et puis en tout cas merci de votre présence dans ces circonstances. Hervé Joly est avec nous aussi. Hervé, bonjour. Alors Hervé,
bonjour.
Il y a encore quelques semaines, il était avec nous du côté de Pékin. Il nous a suivi et accompagné pendant les Jeux de Pékin, mais lui aussi a suivi cette abondante actualité sportive. On attend aussi Jacques Poligny qui va arriver parce qu'on parlera également de ce qui se passera la semaine prochaine du côté du Perret en Yvelines. On aura la semaine équestre du Perret. Madame Hurel viendra nous en parler aux alentours de 10h30. Jacques Poligny donc viendra aussi nous parler de comment il a vécu ce bel été sportif et puis donc aussi du prochain semi des étangs. Et puis on aura dans quelques minutes les pronostics hippiques de notre ami Jean-Claude pour les courses à l'hippodrome de Rambouillet. C'est la 8e réunion de la saison. Et puis les pronostics hippiques de notre pronostiqueur maison aussi, Boris, pour notamment les courses du côté de Longchamp. Allez, on est ravis de vous retrouver. Donc, on reprend les bonnes habitudes. On va écouter la pub, la météo et puis l'éphéméride. Tout ça dans le désordre. On y va. Voilà, eh ben on est ravis donc d'accueillir aussi Jacques Poligny. Donc Jacques, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes prêt donc pour une nouvelle saison. On aura l'occasion donc Jacques d'en reparler. Vous allez aussi, je pense, donc nous parler des Jeux Olympiques que vous avez dû suivre quand même.
Un petit peu.
Oui, un petit peu.
Ouais.
Oh, ça m'étonne de vous. Très bien. Allez, tout de suite, on va du côté de l'hippodrome de Rambouillet retrouver notre ami Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Hein. On a eu l'occasion d'avoir les pronostics de Jean-Claude la semaine dernière dans Radio Village. Jean-Claude, on remet ça ce dimanche, le week-end, pour la 8e réunion de la saison. Et quelle réunion? Parce qu'il y a une course PMU aujourd'hui.
Eh oui, on a une course PMU sur l'hippodrome. On a un temps magnifique. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'animation pour les enfants. Il y a également un car PMU qui va être là, qui va offrir de nombreux cadeaux à tous nos visiteurs. Donc on a une grande journée là qui se prépare sur l'hippodrome de Rambouillet avec 10 courses. La première partira à 14h, mais vous pouvez arriver à 15h, à 15h30, car on sera au départ de la dernière aux alentours de 18h30. Philippe, vous voyez, on a vraiment un programme très très chargé et très intéressant. Mais si vous n'êtes pas là à la première, il n'y a rien de grave, hein. Dans tout l'après-midi on a des courses toutes les demi-heures sur l'hippodrome de la ville. Voilà.
Très bien. Alors, comment ça s'est passé la semaine dernière pour la grosse réunion de rentrée?
Eh bien, on avait fait une animation pour les enfants.
Mm-hmm.
Une animation importante pour les enfants, où chaque enfant était gâté, avait des cadeaux pour la rentrée scolaire. On a quand même mémorisé un peu plus de 250 enfants. Donc c'était très très intéressant. Il manquait du public quand même en disant d'adultes, hein, mais en enfants c'était un succès intéressant. Alors on espère qu'ils ont passé tous un bel après-midi, qu'ils vont revenir cet après-midi, car cet après-midi il y a encore pour eux des structures gonflables, il y a des poneys gratuits, il y a des jeux pour les enfants, enfin il y a beaucoup de choses quoi, hein, en plus pour les parents quoi. Mais c'était très sympathique, une très bonne initiation des fédérations de course d'offrir aux enfants qui venaient accompagnés de leurs parents des cadeaux sur l'hippodrome. C'était sympathique. Voilà.
Et on peut faire un pré-bilan déjà, Jean-Claude, de cette saison des courses sur Rambouillet?
Ça stagne, quoi. On arrive c'est à peu près comme les dernières où il y a 2 ans. On a beaucoup de mal alors que l'hippodrome a des structures extraordinaires, hein, que ce soit en tribune, en restauration, en hall, pour accueillir le public, pour les enfants, pour tout le monde. Eh bien, on a toujours du mal à faire 10, 20, 30% de plus, oui, d'entrée, quoi, de faire venir les gens, en fait. Hein. Il y a beaucoup de choses de faites. Vous pouvez venir sur l'hippodrome, fêter un anniversaire, venir inviter des amis, inviter des clients aussi. Hein. On a tout un restaurant panoramique qui est là pour ça. Vous pouvez parrainer une course, vous voyez, faire beaucoup de choses. Et il faut le dire souvent, très souvent même, pour faire venir une nouvelle clientèle, ce qu'on voudrait, parce que quand même Rambouillet, c'est quand même dans un endroit où il y a du monde partout, quoi. Hein. C'est des villes, il y a beaucoup de monde, il y a Versailles tout près, il y a des grosses villes. Et bien, il y a moyen certainement de doubler, en fait, hein, de doubler, je pense, les participants, enfin les entrées d'un hippodrome. Quoi. Ça paraît évident dans un cadre qui est vraiment super avec le golf qui est au milieu. Enfin, c'est super à Rambouillet, quoi.
Absolument. Alors, quels sont donc vos pronostics pour cette 8e réunion de la saison?
Alors voilà, 8e et avant-dernière réunion. Donc, la première course, 12, 13 et 14. La deuxième épreuve, 1, 2 et 3.
12, 13, 14, 1, 2, 3, c'est bien, Jean-Claude.
1, 2, 3, voilà. C'est une très bonne course de jeunes de 2 ans qui débute dans la troisième course. 13, 12 et 11. Dans la quatrième, alors là, c'est le prix du film Leur morale et la nôtre. Et là, il y aura également des entrées gratuites pour ce film qui seront gagnées sur l'hippodrome dans l'après-midi. Hein. Mm-hmm. 12, 11 et 7. La cinquième course, c'est la grande course, c'est le prix de la Ligue contre la cardiomyopathie. Et là, c'est la course PMU, donc qui aura lieu aux alentours de 16h. Donc, l'idéal, quand même, c'est d'arriver, si vous avez un petit peu de retard pour votre repas, aux alentours de 15h, 15h30. Quoi, hein. La grande, c'est la cinquième. Et là, il vous en restera encore beaucoup derrière. Alors, les pronostics, le 8, Pacha des Matelots. Le 6, Naja in Blue. Le 2, Ojedva, 8, 6 et 2 pour la course PMU, la grande course de l'après-midi, avec des chevaux et des jockeys de la région parisienne. Dans la sixième course, alors la sixième course, vous voyez, c'est quelqu'un comme vous et moi qui a parrainé une course, hein, qui a parrainé une course, le prix Jean-Pascal Gorge. Alors vous voyez, on peut parrainer une course, on peut être sur un programme et inviter des gens, enfin, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, hein, venir me voir, et il y a plein de choses possibles sur un hippodrome à des prix, mais très très compétitifs, hein. Ça c'est important, il faut bien le dire. Dans la sixième, les pronostics 12, 6 et 15, on mettra le 17 également. Dans la 7e, 15, 4 et 13. Dans la 8e, 3, 7 et 4. Dans la 9e, 6, 4 et 12. Et dans la 10e, donc aux alentours de 18h30, 5, 9. Et 7, voilà, une magnifique réunion, il fait un temps magnifique, donc j'espère que tout va très très bien aller. C'est l'avant-dernière, donc je disais, on terminera à Rambouillet cette année, le dimanche 5 octobre, ça sera la dernière de Rambouillet. Voilà Philippe, beaucoup d'informations que je vais te donner pour cette course, pour cette journée qui j'espère va être super, quoi.
D'accord, et puis on vous retrouve aussi Jean-Claude chaque jour, hein, sur le 08, c'est
alors,
ça?
tous les jours, on est au 08 99 70 73 00 pour les infos, les dernières minutes, je suis en direct de Vincennes, moi tous les jours, enfin bon, quand il y a des courses, vous voyez, on a beaucoup d'infos pour nos amis turfistes. Philippe, je te souhaite un très bon dimanche.
Très bien, puis rendez-vous dans 3 semaines, hein, ça sera l'Arc de Triomphe aussi. Hein.
C'est la grande course de l'Arc de Triomphe dans 3 semaines, mais il faudra pas oublier que ce jour-là, on sera à Rambouillet, s'il y a
une course
à Rambouillet, quoi.
Bien sûr.
Comme tous les ans. Je peux peut-être, si tu as encore une minute, donner le quintet de Longchamp.
Oui.
Allez, je vais vous donner 7 chevaux pour le quintet de Longchamp. 9, 4, 10, 8, 3, As et 6.
Très bien. Eh bien, on a noté tous ces pronostics, Jean-Claude, et puis rendez-vous donc dans 3 semaines, hein, pour la dernière réunion de la saison.
Mais surtout, si vous avez une idée, venez à l'hippodrome, on peut faire plein de choses pour vous, quoi. Ça, c'est important, au niveau privé ou professionnel.
Très bien. OK. Merci, Jean-Claude.
Merci. Au revoir, Philippe. Bon dimanche.
Voilà, et bien ça tombe bien, Jean-Claude nous a donné son quintet pour Longchamp. On va voir maintenant quels sont également les chevaux qu'a donné donc notre ami Boris, tout nouveau pronostiqueur hippique dans notre maison. Allez, on y va. Boris pour...
Pour dimanche, l'événement s'effectuera dans la troisième, c'est le prix Qatar Racing et Estrian Club. J'ai choisi donc en base, premier numéro, le numéro 4, Sat-Foy-Duc, qui est un élève de Jean de Roal. Il avait déjà été prévu lors de sa dernière course où il a fini cinquième, une bonne place. Je pense que ça devrait pouvoir être concluant. Après trois bonnes courses de rentrée, ce cheval devrait pouvoir voir son jour. Donc le 4, Sat-Foy-Duc, qui plus est monté par Thierry Thuyès, qui est un des meilleurs éléments en termes de jockey. En deuxième position, j'ai choisi de mettre Sunny Rock, le numéro 6, monté par Olivier Pellier. C'est un laborieux des hippodromes, d'une régularité relativement exemplaire. Je pense que dans cet événement, l'élève de Jean-Louis Guay devrait pouvoir lui aussi compléter la bonne combinaison. Donc le numéro 4, Sunny Rock. En troisième position, le numéro 1, Beau Vangerov, qui est un cheval, à mon avis, de listed, mais qui est un petit peu chargé en poids dans cet événement. Monté par Dominique Boeuf, qui ne touche plus terre en ce moment, devrait pouvoir compléter la bonne combinaison gagnante du quintet. Donc en troisième position, Beau Vangerov, le numéro 1. En quatrième position, pour compléter notre choix, j'ai choisi Warrior's Key, monté par Stéphane Pasquier. Stéphane Pasquier a choisi ce cheval, aurait très bien pu prendre Beau Vangerov, auquel il est associé habituellement. Donc je pense que c'est un critère de sélection qui renforce la chance de Warrior's Key, donc que j'ai positionné en quatrième position dans ce pronostic. Donc la base, si vous voulez, de ce pronostic, le numéro 4, Sat-Foy-Duc, le numéro 6, l'As et le 2, et puis dans le cadre d'un champ un petit peu élargi, pour compléter cette base, on va rajouter le 5, le 3, le 7, le 15 et le 11. Voilà pour ce dimanche.
RVE 103.7.
Voilà, merci en tout cas à Boris et puis merci donc à Jean-Claude. Vous avez largement le choix, donc vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent pour ce dimanche. Alors messieurs, on va revenir sur ce bel été de sport, hein, et puis ensuite avec Jacques, on parlera de ce qui nous attend la semaine prochaine du côté du semi des étangs, qu'on couvrira d'ailleurs en direct hein, pendant deux heures, comme depuis de très nombreuses années. Alors je me retourne d'abord vers notre ami donc Jean-Paul, le Courtois, hein, c'est pas le Guerchois, mais j'appelle toujours Jean-Paul, que je connais même pas son nom, c'est vrai en plus. Alors, Jean-Paul, on s'était quitté, c'était fin juin.
Oui.
Hein, on était au matin même de la victoire de l'Espagne sur l'Euro, 1-0 devant
de
l'Allemagne.
L'Espagne, on précise. Hein,
donc, victoire logique des Espagnols sur cet Euro, tant de par la qualité de leur collectif que par leur jeu technique.
Hein. Je pense que c'était l'équipe la plus constante. Celle qui a montré un très bon football à tous les niveaux, et je pense que c'est celle qui mérite vraiment de gagner. Moi j'avais un petit favori qui était la Russie, mais qui s'est complètement écroulé qui s'est complètement écroulé alors qu'elle avait fait un quart de finale absolument splendide. Non, c'est l'équipe vraiment méritante qui a gagné cette fois-ci.
Et Aragonès a su faire l'union sacrée, ce qui n'était pas évident.
Malgré que je vénère pas ce personnage.
Entre les Catalans, tout ça,
voilà,
c'est pas toujours facile.
Il a réussi à faire une très très bonne équipe, bien en place. Rien à dire. Même si le personnage est un peu calamiteux.
Ouais. Mais c'est bien, c'est vrai que c'était la meilleure équipe depuis très longtemps. Les Espagnols avaient du mal à franchir
tout
ce cap.
Là, on a vraiment vu l'équipe qui méritait, celle qui était au-dessus de ce Euro.
Ouais. Hervé, Jacques, vous avez suivi l'Euro ?
Oui, bien sûr.
Oui, Jacques, il était à la finale de 2000 que les Français avaient gagné, je me souviens. Hein.
Et j'avais même pronostiqué la victoire.
Oui. Ouais. Alors, cet Euro, comment vous l'avez vécu, vous, Jacques ?
En deux temps. Ouais. Le premier temps, je dirais la tristesse.
Ouais. On va en reparler. Hein.
Voilà, donc, rajouter un petit peu d'huile sur le feu.
Et si, c'est encore d'actualité, malheureusement.
C'est encore d'actualité. Oui, j'ai suivi ça à distance, c'est vrai. Mm-hmm. Et puis, le deuxième temps, place.
Oui, d'accord, ça sera mieux. Donc, et deuxième temps, place au jeu. Et c'est vrai qu'on a été, on s'est régalé dans la deuxième partie.
Mm-hmm. Hervé ?
Oui, en ce qui compte. Voilà. En ce qui concerne l'Euro, hein, même chose, l'Espagne, c'est bon. Il y a très longtemps qu'on attendait la confirmation de l'Espagne, puisque c'est vrai que depuis de très longues années, elle nous habitue à des succès répétés, on va dire, au niveau des clubs, au niveau international. À chaque fois, c'était un petit peu la déception, hein, depuis très longtemps. Il faut remonter à 64 pour avoir une victoire de l'Espagne dans un grand...
La seule et unique, à l'Euro.
Ouais, dans un grand rendez-vous international. Oui, on se rappelle qu'en 84, elle avait disputé une finale qu'elle avait perdue contre la France.
Oui.
De Platini, à l'époque, voilà. C'est vrai que depuis très longtemps, on attendait l'Espagne au niveau international et cette fois-ci, je pense qu'elle a répondu présent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une équipe relativement jeune, on va dire, Et puis ce qui fait surtout plaisir, c'est que c'est un peu aussi la récompense du football d'attaque.
Oui, elle joue vers l'avant.
Voilà, et... du football offensif, donc ça c'est quand même positif, notamment en termes de spectacle, hein,
oui.
On va dire.
Voilà. Oui, on était tous contents qu'ils aient gagné, et pour vous l'éducateur de foot que vous êtes, Jean-Paul, oui. C'était une bonne chose quand même.
Ah tout à fait.
Hein, parce que des fois il y a des équipes
d'ailleurs,
qui gagnent.
D'ailleurs, si vous regardez bien maintenant, ouais. Toutes les nations européennes sont en train de copier ce qu'a fait l'Espagne, c'est-à-dire on met maintenant plus d'attaquants que l'on met de défenseurs.
Ah bah tant mieux.
Ce qui fait que l'ère de Domenech, il a des soucis à se faire. À mesure où lui c'était plutôt derrière que devant.
Et le petit clin d'œil sur lequel je voulais revenir, c'est que depuis quelques années, on nous bassine entre guillemets avec les gros gabarits, les gabarits puissants, les gabarits physiques. Si on regarde l'Espagne, c'est l'équipe qui a la plus légère de tout le tournoi et la moyenne de joueurs la plus petite de tout le tournoi. Donc bon, voilà, c'est un pied de nez un petit peu à ceux qui pensent que quelquefois il faut avoir des gabarits d'haltérophile pour jouer au football. Ben là, on vient d'en avoir la preuve contraire.
Vous savez, l'équipe de France du temps de Platini avec les Gires, Tigana, c'était quand même des personnages assez frêles et pas très grands.
Oui,
ils faisaient du football de rêve.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, bon, après, l'Euro, l'équipe de France, elle l'a raté. On en a parlé dans nos différentes émissions. Après, on a eu le maintien de Raymond Domenech. On lui a adjoint Bogossian. On a attaqué, la nouvelle saison. Et puis, on a le sentiment que les choses n'ont pas véritablement changé. Une victoire contre la Suède, 3-2. Un match calamiteux, il faut le dire, contre l'Autriche. Hein. Attaque inexistante, défense pour le moins fébrile. Et puis, un petit mieux quand même, donc, mercredi, contre la Serbie, 2-1. Est-ce que vous êtes confiant pour... la suite, parce que plus que Domenech, c'est surtout de la qualification à l'Afrique du Sud qui est importante.
Bon, je crois qu'on cite beaucoup Domenech, mais moi j'ai pas vu beaucoup de joueurs contre l'Autriche qui étaient concernés. Hein. J'ai été un petit peu déçu par le comportement de certains joueurs, surtout sur leur repli défensif pour avoir perdu la balle. On n'avait pas l'impression que leur travail était là. Sur ce qu'on a vu contre l'Autriche, non trop calamiteux, mais sur ce qu'on a vu contre la Serbie,
il y a eu du bon et du
mauvais. On a eu un excellent joueur qui s'appelle Gourcuff, qui a très très bien travaillé au milieu de terrain, même si c'est quelqu'un de mon coin.
Oui, oui. Faut qu'il confirme maintenant aussi.
Maintenant, faut qu'il confirme, c'est vrai. Mais avec Bordeaux, il a montré quand même qu'il avait des qualités pour être un bon organisateur de jeu. Oui. Et puis, il nous manque quand même notre petite flèche qui va très vite devant et qui provoque, c'est Ribéry.
Oui,
ça manque. Simplement, l'ère de Domenech, bon, c'est toujours énigmatique. Lorsque l'on interroge à la fin du match, on se demande s'il fait du théâtre ou s'il va parler de la pluie du beau temps. Enfin, c'est... Il est anachronique, non. Puis
Jean-Paul,
Bogossian dessus, ouais. Non.
On a le sentiment que le courant passe plus entre les joueurs. On l'a vu, hein, c'est révélateur mercredi. Hein, les joueurs marquent, ils vont même pas vers
Domenech. Il ne passe pas entre les joueurs et Domenech, et il ne passe pas entre le public et Domenech.
Ouais.
Donc il ne passe nulle part.
Oui, mais enfin, ça, encore le public et puis le sélectionneur, c'est pas nouveau, quoi. C'est déjà arrivé. Nous, on a connu l'époque Aimé Jacquet où, malheureusement, il y avait un public qui était aussi très réticent vis-à-vis d'Aimé Jacquet.
Bah, c'est vrai qu'en France, il y a 62 millions de sélectionneurs, difficile.
Oui, oui. Mais bon, est-ce qu'il s'est pas fait prendre aussi un peu à son propre piège, Domenech? Parce que c'est vrai que dans les conférences de presse, c'est le rapport de force dès le départ avec les journalistes.
Tout à fait. D'ailleurs, la première chose qu'il leur dit, ce que vous aimeriez, c'est de me voir descendre. J'ai entendu ça encore la dernière fois. Oui, c'est lui. Lui va chercher déjà le rapport de force au tout début. Alors évidemment, il le trouve. Hein. Il faut pas rêver.
Alors après, nous, les journalistes, on est aussi un peu responsables. Mais bon, je veux dire que c'est un tout. Quoi. Il a installé ce rapport de force.
Il l'a installé. Puis maintenant, moi, je pense qu'il est très mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'il ne sait plus comment s'en défaire. Hein. Enfin, c'est le sentiment qu'il me le donne. Il faut dire aussi contre la Serbie, il a quand même innové. Hein. Il a quand même mis Clichy, Sagna. Gourcuff, il a quand même été chercher ce qu'on lui demande depuis très longtemps, quoi. D'inclure des jeunes et puis d'inclure des joueurs qui ont du talent et non pas un petit copinage entre joueurs, parce que je suis pas très certain que c'est lui qui faisait toute l'équipe.
Et les coachings, bon, souvent qu'on lui reprochait.
Alors détestable contre l'Autriche.
Et judicieux hein, contre la Serbie, puisque elle a fait marque.
Je pense que, mais bon, à son âge et en étant à la tête de l'équipe de France, il devrait pas progresser dans son coaching. Il devrait être au top depuis le départ.
Ouais.
C'est bon pour moi qui suis un éducateur d'un club qui joue en excellence, mais pas autrement.
Alors, ces jours sont comptés. Après la Roumanie, je pense qu'on va revoir sa situation, non ?
Oui, mais c'est ce qui se passe derrière qui me gêne, parce qu'on est en train de mettre en place des champs par petits mots et par petites touches assez piquantes, méchantes, pour mettre en place quelqu'un que l'on veut mettre en place.
C'est pas un commode non plus, Deschamps.
Je ne dis pas que... Ah non, c'est pas un facile.
Ah oui, oui.
Non, non. Si on n'arrive pas à ce niveau-là non plus, en étant tendre et doux.
Non, mais même vis-à-vis des instances fédérales, ils vont avoir quelques soucis. Hein. Il ne cesse pas faire. Hein.
Vous savez, les instances fédérales, lorsqu'on voit le comportement des Scalettes, c'est quand même assez décevant. Donc, il faut aller un peu contre, je pense.
Hervé, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation pro anti-Domenech?
Ben, c'est vrai que bon, alors il y a deux façons de l'avoir. Il y a d'abord les résultats, on va dire bruts. Alors c'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines, notamment à l'Euro, c'est un peu, on va dire, la grosse déception. Alors il y a ceux qui reviennent un peu en arrière en rappelant qu'en 2006, la France participait pour la deuxième fois seulement de son histoire à une finale de Coupe du Monde et que c'était Domenech l'entraîneur. Ça c'est vrai, on est d'accord là-dessus, mais je crois qu'il y a plusieurs gros problèmes. Je dirais que le problème numéro un, en dehors de la relation avec la presse qui a toujours été le souci particulier de Domenech, bah, c'est vrai que moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai l'impression que dans cette équipe, il y a des joueurs qui ne se sentent pas vraiment concernés par ce qui se passe. Donc ça c'est beaucoup plus inquiétant pour l'avenir. Il va falloir recréer un climat de confiance déjà entre tous les joueurs, parce que ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui.
Il manque un leader, il manque voilà. Un patron, un fédérateur comme l'était justement
Deschamps. Ah bah ça, oui, voilà. Alors bon, Deschamps comme entraîneur, bon, on verra. Non, je pense qu'il a certainement, il y a des qualités, il y a rien à dire de ce côté-là. Maintenant, au niveau, je veux dire, des relations avec la presse, je suis pas sûr que ça soit beaucoup mieux qu'avec Domenech, mais ça, on verra dans le futur. Ce qui est le plus important, c'est déjà de ressouder l'équipe et puis, de bien entendu, de se qualifier pour 2010 et la Coupe du Monde en Afrique
parce
du Sud.
Le groupe est pas excessivement difficile quand même. Hein.
Non, et puis...
Il aurait pu tomber pire. Hein.
Et en même temps, les rendez-vous arrivent vite, puisque la Roumanie, qui est déjà un match, on va dire... presque crucial.
C'est dans un mois.
C'est dans un mois, voilà. Donc, on en saura déjà beaucoup plus après ce match-là. C'est un des matchs les plus difficiles à l'extérieur dans le groupe. Il va falloir.
Il y aura la Lituanie.
Oui, la Lituanie qui sera pas mal aussi. Voilà, qu'on a un peu mésestimé et on s'est rendu compte tout récemment qu'on avait un peu oublié la Lituanie. Et c'est vrai que bon, il y a encore beaucoup de travail sur la planche. Alors bon, Domenech, je sais pas comment ça va se passer. On va le voir rapidement en fonction des résultats, mais bon, moi, pour moi, le plus important, c'est d'essayer de recréer un climat entre les joueurs et puis surtout l'envie de. Bon, moi, je trouve ça absolument anormal que des joueurs qui viennent participer à un stage de l'équipe de France arrivent comme s'ils allaient à l'abattoir, quoi. Je veux dire, bon,
c'est vrai, c'était assez révélateur. C'est qu'il y avait personne qui avait le sourire. Henri-Émile, qu'on a vu pour parler de l'anniversaire des Bleus, hein,
il l'a évincé, Henri-Émile, qui était le fédérateur des joueurs.
Mais Henri nous l'avait dit, ce qui l'avait choqué, hein, parce qu'on l'a vu pendant. Donc au mois de juillet pour nous parler du match anniversaire des Bleus, ce qui le choquait lui, c'est qu'il n'y avait pas le sourire. Cette équipe n'avait pas la joie de jouer durant l'Euro. Il n'y avait aucun qui avait le sourire. Alors que quand on est en équipe de France, c'est quand même un privilège, quoi.
Oui, c'est un fait. Hein. N'importe comment, ils ont montré aussi. Ben, sans sourire, ils ont montré qu'ils n'avaient pas de jeu non plus. Alors dans ces cas-là.
Oui. Non, mais je veux dire qu'on on a cette.
Ça, c'est la dynamique de groupe. Alors il faut savoir la créer. C'est vrai qu'il faut un leader. Ça manque peut-être parce que Deschamps, c'était quelqu'un qui traînait tout le monde. Hein. Ça, c'est certainement ça manque. Maintenant, il faut recréer cette dynamique de groupe. Je pense contre la Serbie, on a vu quelque chose qui était bien mieux que contre l'Autriche.
Ah bah oui.
Donc à ne pas rééditer ce qui s'est passé. Absolument excellente, oui. Donc je pense à continuer.
Jacques.
Alors, plusieurs points. Moi, je pense qu'il manque, même au niveau de l'équipe, il manque un leader.
Oui.
Je dirais que on avait 98-2002, il y avait Zidane qui était là, qui tirait un petit peu tout le monde et qui fédérait un petit peu, je dirais, toute l'équipe et qui créait cet esprit d'équipe. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esprit d'équipe. Et puis après, l'autre point, moi, qui me nerve, c'est que dans le privé, une entreprise, quand le manager atteint pas ses objectifs. Il change.
Ouais.
Donc, et là, j'ai pas compris du tout les instances fédérales de maintenir leur position, de continuer quoi qu'il se passe et autres. Donc là, il s'est créé un bras de fer entre le public et puis
les instances,
les joueurs qui sont au milieu, hein, ils sont pris en étau. Et puis tout ça, crée que l'esprit d'équipe, ils sont tous là, ils tremblent parce que si on gagne, bon ça va, mais si on perd, qu'est-ce qu'on va se prendre encore sur la tête. Donc tout ça fait que on n'est pas dans une bonne ambiance et pour pouvoir je pense créer un déclic il faut faire bon je suis pas dans le domaine mais moi je pense qu'il faut faire un changement radical fort, tourner la page. Je crois que ça c'est important parce que on vit beaucoup avec le passé de 98, bon c'était il y a 10 ans. Donc là maintenant je pense qu'il faut tourner la page et puis essayer de reconstruire, chose qu'il a pas su faire. Alors facile dans sa communication de dire à la fin de l'Euro Bordeaux. Oui, mais je vous avais dit, je préparais la Coupe du Monde. Bon, de quelle année hein? donc voilà quoi.
Ouais, 2014.
Je pense que les instances fédérales n'ont pas non plus le courage de se remettre en cause.
Bien sûr, bien sûr.
Je pense que c'est là le plus important. Le fait de laisser Domenech dans sa situation leur permettait de penser qu'ils étaient peut-être sur la bonne voie, alors que non.
Et donc, pour vous, Jacques, ces jours sont comptés aussi. Après la Roumanie, bon, Jean-Pierre Escalette a dit, on va revoir son cas, mais bon, de toute façon, après, il y aura. La chance qu'il y a, c'est qu'après, il y a une série de matchs amicaux qui peut permettre d'aller jusqu'au mois de mars. Donc,
je crois que le personnage, déjà, hein, on a eu l'occasion, tu te souviens, absolument. On le connaît. Il n'avait pas l'esprit tourné vers l'action sur laquelle on travaillait. Mm-hmm. Donc, le personnage en lui-même, on peut le dire, il est antipathique. Donc il attire pas, il rassemble pas déjà, puisque déjà quand Jean-Claude le disait, quand il arrive en conf de presse, c'est pas pour essayer de dialoguer, c'est tout de suite pour faire. Il arrive, bon, vous venez chercher l'odeur du sang, bon, je veux bien quoi, mais non. Non, il n'est pas au théâtre. Quoi. Je crois qu'il faut qu'il retourne au théâtre et puis c'est tout. Quoi.
Pour répondre à un journaliste qui disait « Qu'est-ce qui vous plaît chez Domenech ?» Il répondait « Sa femme
». Hervé, un petit mot?
Moi, je voulais juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au leader. C'est vrai que lorsqu'on regarde... Alors, c'est peut-être un raccourci si facile, mais lorsqu'on regarde l'histoire de l'équipe de France depuis, on va dire, un siècle, il y a eu trois grosses périodes. L'équipe de France, c'est 58, 78, 80 et 98-2000, et à chaque fois ça correspond très précisément aux trois plus grands joueurs français de l'époque, c'est-à-dire Coppa, Platini et Zidane. Oui. Et c'est vrai que c'est à chaque fois qu'on a eu un très gros leader que l'équipe de France a réussi des bonnes performances. Je ne veux pas dire qu'entre deux ça a toujours été catastrophique, hein. Il y a eu d'autres périodes intéressantes aussi, mais c'est vrai que on sait qu'il faut un grand leader pour emmener cette équipe, non seulement en tant que joueur, mais aussi un leader charismatique qui puisse drainer tous les joueurs derrière lui. C'était le cas pour les trois joueurs que je viens de citer.
Mm-hmm. Donc la France absente du Mondial 2010, pour vous c'est envisageable?
Ah ben je dirais non tout de suite d'entrée.
Ah oui, parce que
moi si c'est la Coupe du Monde sans voir les petits bleus, ce serait dommageable.
On a connu ça pourtant.
Oui. Mais je veux dire, s'ils n'y vont pas, ils n'y vont pas. On ne va pas non plus pleurer. Ce sont des joueurs qui gagnent des salaires faramineux, donc qu'ils fassent leur travail correctement. Il y a ça aussi. Il y en a pour je ne sais pas combien de millions de mois qui vont travailler toute la journée et très dur et qui ont l'impression d'avoir très bien fait leur travail. Moi, je n'ai pas toujours le sentiment qu'ils ont bien fait le leur en ayant des sommes faramineuses. Donc, qu'ils se responsabilisent aussi, les joueurs, pas seulement que Domenech.
Oui, et puis on a vu effectivement des joueurs qui n'ont pas le rendement espéré. Non. Des joueurs comme Nasri, par exemple, qui...
Oui, puis moi je suis très déçu, par exemple, je vois Gouvou qui à chaque fois qu'il était sur l'aile droite est toujours revenu en arrière, qui n'a pas fait de pénétration. Chose qu'Henri a fait sur le deuxième match, qu'il n'avait pas fait sur le premier. Mm-hmm. Mais Gouvou à chaque fois il a bloqué son ballon pour revenir derrière par un appui sur Courguf ou sur un appui sur Sagna. Alors que ce qu'on demande aussi à des ailiers, c'est de pénétrer et de faire de la provocation pour passer. J'étais extrêmement déçu là-dessus.
Mm-hmm. Très bien, écoutez, ça va nous faire parler dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Alors on va enchaîner sur le deuxième événement qu'on a suivi, Jean-Paul, ensuite, parce que je sais que vous aimez le vélo aussi.
Ah oui, j'en fais.
Hein, c'est le Tour de France.
Le Tour de France.
Ce tour, vous l'avez vécu comment? Le sport a enfin repris ses droits.
Le sport a repris ses droits. On a vu beaucoup de Français à l'attaque.
Oui.
Malheureusement, comme dans toutes les bonnes étapes de plat, maintenant, c'est rattrapé dans les trois derniers kilomètres. Mmh. C'est un petit peu le dommage. Et puis,
c'est le cyclisme à l'oreillette. Hein.
c'est grosso modo, oui, c'est ça. Ouais, c'est le travail. On leur dit, vous leur laissez encore 10 km et puis vous vous mettez en route, et c'est un peu le problème. Oui, avant il y avait plus d'attaques, c'était un petit peu différent, mais maintenant à l'oreillette c'est très organisé, et puis en plus ils ont même la télévision pour écouter les commentaires à Jalabert et je ne sais plus qui, Fignon, de façon à récupérer les phrases intéressantes que les autres ont pu prononcer, de façon à poursuivre leur attaque.
Tiens, c'est bien de parler de Jalabert parce que Jacques, il aura l'occasion de le côtoyer à la Diagonale du Fou à la fin octobre. Donc voilà.
Et puis je voulais dire aussi que le vainqueur, moi j'aime bien.
Oui, Carlos Sastre.
Sastre qui s'est toujours dit propre. Maintenant, je lui le souhaite. On avait beaucoup parlé de Balberdé qui a complètement explosé très très vite. D'ailleurs, Jalabert l'avait toujours dit, il n'ira jamais loin, il ne gagnera pas.
C'est vrai que Jalabert avait aussi pronostiqué ça serait dès le départ.
Tout à fait, tout à fait.
Et c'est un des rares d'ailleurs.
Tout à fait. Il a, c'est dans l'Alpe d'Huez qu'il est parti, qu'il a gagné son tour. Mais tant mieux, je trouve que c'est un bon personnage qui a gagné.
Ouais, c'est-à-dire qu'on a vécu un Tour de France de transition et ça serait incarne bien ce vainqueur.
Bah, le Tour de France de transition, ça permet aussi aux petits de pouvoir sortir, de pouvoir mettre le nez à la fenêtre, comme on dit quand on va en tête du peloton. Et ça ne permet pas de voir que des équipes où du temps d'Eddy Merckx, tout était bloqué, où on ne laissait sortir que qui on voulait. C'était un petit peu de la course difficile à regarder, ce n'était pas plaisant. Là, ça part de toutes parts.
Alors, c'est vrai qu'on a eu une course peut-être moins cadenassée, on a eu du suspense, moins d'espoir athlétique, mais finalement, c'est pas plus mal. Dans la montée de l'Alpe d'Huez, c'était beaucoup plus serré. On a vu des rictus, on a vu certains grimaces qu'il n'y avait pas avant. Et certains ont trouvé peut-être.
Avant, il y avait des coureurs qui pouvaient monter deux cols sans ouvrir la bouche. Je ne sais pas comment ils font, parce que moi, sur 50 km ici, juste une petite côte ici, j'ai une bouche qui est grande ouverte à l'en haut. Oui, je me posais des questions, oui.
Oui.
Mais il est vrai que maintenant, que non dopé, ils montent les cols plus vite que dopé.
Oui.
Ce sont des stats qui ont été faits cette année.
Oui.
C'est aussi surprenant, mais bon.
Sauf Pontani, hein, le record de l'Alpe d'Huez, c'est lui qui l'a quand même.
Oui, mais enfin.
Et deux minutes de plus.
Pontani ne marchait pas à l'Auclair,
ouais,
je sache.
C'est bien. Hervé, ce tour, vous aussi, vous a plu enfin le sport à.
Oui, oui. Et puis bon, c'était la continuité aussi des succès espagnols.
Ouais.
J'avais commencé avec Nadal
à
Roland-Garros, l'Euro de football dont on vient de parler, et Sastre qui s'impose sur le Tour de France. C'est le 7e espagnol à s'imposer sur le Tour de France. C'est vrai qu'au départ du tour, il y en avait beaucoup qui avaient plutôt pronostiqué Cadel Evans, par exemple, l'Australien. Alors bon, à l'arrivée, à la fin du Tour de France, il y a moins d'une minute pour les séparer.
Comme l'année dernière, c'est pareil. Hein.
Ouais, enfin, je voudrais juste dire une chose, c'est Cadel Evans, il attaque jamais.
Voilà. La grosse différence, c'est ce que j'allais dire, c'est que Sastre, au moins, on ne peut pas lui reprocher une chose. C'est vrai qu'il a essayé à de très nombreuses reprises. Et encore une fois, c'est l'offensive qui a payé, puisque c'est vrai que Cadel Evans, il a un peu une politique d'attente, on va dire, qui est un peu agaçante quelquefois. Et c'est vrai que, bon, Carlos Sastre, il a osé. Et donc, il a gagné. C'est très bien comme ça. Je veux dire, je voulais juste revenir sur les Français. C'est vrai que ça n'a peut-être pas été une grande année pour les Français.
Il y a quand même trois victoires d'étape.
C'est pas arrivé si souvent depuis.
Il y a quand même beaucoup d'attaques.
Depuis quelques années, voilà, ils ont essayé pas mal. Il y a eu aussi Romain Feuillu qui a porté le maillot jaune. Il faut aussi le rappeler. On peut pas, au moins pendant très longtemps, depuis quelques années, on leur reprochait de pas oser, de pas essayer. Cette année, ils ont attaqué. Ça n'a pas toujours payé, mais au moins ils ont attaqué. À l'arrivée, il y a quand même trois victoires d'étape, donc c'est pas si mal que ça quand même. Et puis le succès espagnol est assez complet, parce que je regardais le palmarès, on s'aperçoit aussi que, par exemple, pour le maillot vert, c'est Oscar Ferré qui l'emporte. Donc encore une fois, c'est la grosse année espagnole dans beaucoup de domaines, hein, notamment le Tour de France.
Ouais, voilà. Et puis je crois que c'est le pays qui est le plus régulièrement placé dans les 10 premiers chaque année sur le Tour de France.
Cette année encore, ils sont trois ou quatre dans les 10 premiers. Ouais. On va pas se plaindre. C'est vrai que cette année, ce qui a fait aussi plaisir, bon, on va pas revenir sur l'épisode Ricardo Rico, mais bon, c'est vrai que
5 seulement contrôle positif sur 100, sur 600 contrôles.
Voilà, cette année, on va dire qu'on a ressenti un petit vent de renouveau et d'espoir. Même s'il y a encore pas mal de choses à améliorer, certainement. On va dire qu'on va dans le bon sens, voilà.
Jacques, c'est un des feuilletons d'été pour vous, c'est le Tour de France, ou pas trop?
Pas trop, quoi. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que c'est une victoire, c'est aussi la victoire d'une équipe. Crois que on voit, avec Carlos Sastre, les frères Schleck, il y avait vraiment une équipe et puis une très très bonne entente, parce que initialement il y avait deux leaders, il y avait Schleck et il y avait Sastre, et en bas de l'Alpe d'Huez, normalement Sastre il partait, c'était pour mettre sur orbite Schleck, et on s'est aperçu que Schleck a coincé et c'est Sastre. Voilà, donc et là j'ai trouvé ça vraiment super, donc c'était vraiment une course d'équipe et de ce côté-là rien à dire quoi. Donc mais bon, alors c'est vrai que bon moi j'adore la montagne, j'en viens donc c'est,
ah
pour
oui,
ça.
C'est pour ça.
Et bon, je suis content que la décision, enfin que le vainqueur ça soit un grimpeur, parce que on voit on a vu traditionnellement le vainqueur c'est celui qui était le meilleur dans les contre-la-montre. Mmh. Bon, Sastre, même s'il a fait un super contre-la-montre, il a bâti sa victoire dans la montagne quoi. Donc et pour moi, enfin le Tour de France c'est la montagne, le plat, le contre-la-montre, c'est pas trop ouais. C'est pas trop là que je prends ouais. Mon j'irai mon plaisir. Ouais. Donc
bon, ça fait vrai. Partie du patrimoine de la France. Les audiences sont très bonnes. Malgré tous les problèmes que le Tour a ouais. donc rencontré plus que jamais, et on l'a vu encore nous voilà. cette année sur le Tour. Il y a encore du monde, quoi.
Voilà. Alors moi je reviens. Bon, tu sais, je reviens ouais. des US et là-bas c'est oui. La grande la grande attention, c'est le retour. C'est le retour d'Armstrong.
On va en parler. Ça tombe très bien parce que bon cette semaine on l'a pas fait exprès, on préparait cette émission et puis il y a eu donc la bombe Armstrong qui est arrivée, les fermes Armstrong. Qu'est-ce que vous en pensez là-bas? Donc on en parle, on ne parle que de ça, Jacques.
Bah, on ne parle pas que de ça parce que non mais dans USA Today donc il avait une page entière quoi.
Ah, d'accord.
Donc alors c'est vrai que à côté du Super Bowl et autres mais il y avait une page entière sur son retour. Bon, avec quand même des inquiétudes parce que je crois qu'il a 37 ans.
Bon, je ne le vois pas gagner, moi. Enfin bon, ouais, ça, c'est une opinion personnelle.
Donc, mais bon, là, il part pour une cause.
Oui.
Donc là, je crois que bon, à défaut.
Est-ce que c'est pas une opération de marketing pour
Je pense.
Pour redorer son blason.
Pour redorer son blason, je sais pas, mais.
Si, parce qu'il est parti quand même vis-à-vis du public français, on peut pas dire que c'est un grand amour, quoi.
Non, puis il y a des doutes énormes sur ses performances sportives.
Oui, ouais, mais c'est.
Ouais,
mais c'est pas le cas aux US.
Aux US, non.
Voilà, aux US.
Aux US, non. Aux US, c'est vraiment la vedette. Et donc là, le fait qu'il parte pour défendre une cause, bon, je pense qu'il part plus pour attirer l'attention et utiliser son nom. Donc c'est vrai que l'opération marketing, là-dessus, les Américains sont très très forts. Moi, je pense plus à une opération marketing que plus une opération sportive pour partir à la conquête d'une huitième. Alors c'est vrai que en sous-titre, c'est huitième victoire Tour de France. Bon, il peut y aller, quoi, mais je crois qu'il y a des jeunes... qui ont montré leur nez cette année. Ouais, bon, Contador qui a pris le maillot jaune hier à la Vuelta, donc.
Ouais, donc, bah, et puis bon, je sais pas, moi je serais coureur, trois années d'interruption, sa boîte Armstrong, on est battu sur le Tour de France, on peut se poser des questions.
Ouais, mais attention, parce qu'il a une préparation derrière, il a un objectif, oui, et bon, il montrait un petit peu son laboratoire de préparation et tout. Il gagnera peut-être pas, mais.
Il gagnera une étape, peut-être.
Il sera sur le podium.
Voilà, si on a le Tour de France Armstrong, on aura encore le Tour de la décantation, moi j'appelle ça, parce qu'on élimine pas l'arrière et non le Tour de l'attaque, comme on l'a vu. Que Sastre et l'équipe c'est...
Ouais, mais je pense que il va venir avec une équipe.
Ah oui,
là aussi, je crois que je dirais un des secrets du Tour de France, c'est le coureur, aussi bon soit-il, s'il a pas une bonne équipe derrière lui. Ouais. On a vu Cadel Evans, alors on peut reprocher qu'il attaquait pas, mais il a personne derrière pour le soutenir. Donc c'est pas facile.
C'est vrai. Mais bon, attention quand même parce que effectivement lui si jamais il revient c'est vrai que, à mon avis, il viendra avec une idée bien précise derrière la tête. Je pense que si dès le départ, il sait que son objectif est, il peut pas atteindre l'objectif, il se déplacera pas. Ça, je pense, j'en suis certain. Et en même temps, là, on vient de voir récemment, là, il a participé à une grande course de VTT.
Il fait troisième.
Aux États-Unis, voilà.
Il fait troisième.
Il finit dans les trois premiers. Donc, ça veut dire qu'il est peut-être pas encore, bien sûr, au niveau du Tour de France, mais il a quand même encore une certaine condition physique. Et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui à chaque fois qui s'est fixé un objectif précis, il a tout fait pour l'atteindre.
Il a du mental.
Il s'est préparé très précisément dans tous les domaines, aussi bien technique, scientifique, etc. Il met tous les atouts de son côté, donc faut se méfier. Même si c'est vrai que moi aussi, comme Jacques, je crois un peu. Pour l'instant, c'est plus un coup de pub qu'autre chose, mais bon, on va être fixé assez rapidement dans les semaines à venir. Quoi.
Oui, voilà. Enfin, le coup de pub, c'est que si pour pouvoir défendre sa cause, il faut qu'il occupe la scène, le devant de la scène. Mm-hmm. Alors, moi, je pense qu'il sera sur le podium. Il gagnera pas, mais il sera sur le devant de la scène pour faire parler de lui, pour bien sûr derrière.
Il peut par exemple aider Contador à gagner le Tour, s'ils vont être de la même équipe, donc ça sera aussi redorer son image.
Bien sûr.
Dire voilà, je reviens, bon, pour une bonne cause, et en plus.
Il y aura peut-être un problème d'ego entre les deux aussi.
Oui, ça c'est encore autre chose. Mais bon, juste pour terminer, pour finir sur l'image là, il y a deux choses bien distinctes. Ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est que l'image, son image, elle est complètement ternie en France, mais c'est pas du tout le cas aux États-Unis, où eux considèrent qu'il a été victime d'une propagande, d'un complot, enfin on appelle ça comme on veut. Et là-bas, il a pas du tout de problème d'image de ce côté-là. Ouais, c'est simplement.
Aux États-Unis, on vénère le monde de spectacle.
C'est simplement
sans
au niveau d'Europe.
Derrière.
Oui, oui, non, mais
prise de posologie quelconque.
Non, mais je dis pas qu'ils ont raison, c'est pas ça que je veux dire.
Simplement, j'ai bien compris.
Ce que je veux dire, c'est qu'il a des soucis avec son image en France et en Europe, mais pas du tout là-bas. Hein.
Non. Voilà. Alors, ça a suscité des vocations, parce que certains coureurs qui ont abandonné, donc le vélo professionnel, veulent aussi revenir. C'est le cas de Michael Boger, de Florian Dix. Ça paraît incroyable.
Ah, Landis reviendrait aussi.
Oui, oui.
Ah. Alors, son image est peut-être éternée, lui aussi.
Hein, oui, bon, non, pas même d'Ivan Basso. Qui pourrait que refini aussi sa suspension, donc ça va vraiment susciter des...
André Dargan n'a pas parlé de revenir.
le pauvre. Voilà. Non mais bon, il y a des gens, c'est vrai, qui ont gagné le Tour de France à un âge un peu avancé, on va dire, pour un cycliste professionnel, mais il y a même des gens... Lubbe Zoetemelk qui a été champion du monde à 40 ans. Hein.
Ouais,
voilà, mais champion du monde, c'est un jour. Le TAP, faut tenir 3 semaines. Le Tour, faut tenir 3 semaines. C'est un peu plus compliqué.
La course la plus difficile.
Voilà. C'est un peu plus compliqué, mais bon.
C'est un championnat du monde pendant 21 jours. Hein,
voilà.
C'est ça.
Ouais, mais
et c'est la course que. Moi, je voyage beaucoup et on ne parle que du Tour de France.
Bien sûr.
Que ce soit en Chine où j'étais ou à Laos. Le Tour de France, c'est quelque chose de phénoménal.
Bien sûr.
Très bien. Allez, un petit break musical et puis après, justement, on va prendre la direction de Pékin. Voilà, allez, on va donc prendre la direction de Pékin, parce que ça a été aussi un des moments forts que l'on a fait vivre sur l'antenne d'Hervieux. Alors, Jacques, d'abord, vous qui avez eu l'occasion d'aller très souvent à Lillehammer, à Sydney, à Athènes, cette année, vous n'avez pas été à Pékin ?
Hélas, non.
Non.
Hélas, non.
Ça a dû être frustrant. C'était un choix personnel ou alors
tout était
ça n'a pas pu se faire.
Tout était programmé, mais une semaine avant de confirmer, bon, il y a eu un événement familial qui a fait que j'ai dû rester en France.
D'accord.
Voilà,
ok.
Donc j'ai suivi les Jeux à distance, à très très grand regret.
Oui. On va rappeler combien de Jeux Olympiques.
C'est bon. Ouais. Combien de Jeux Olympiques? J'ai démarré en 4. Je suis allé.
Oui.
J'ai démarré en 92 à Calberville et puis j'ai raté qu'Atlanta, quoi.
D'accord. Été hiver,
complètement.
Oh, c'est fabuleux,
Et Pékin, quoi.
Ouais. On va en parler. Bon, Jean-Paul, vous êtes aussi un passionné de tout ce qui touche les Jeux. Hein.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
C'est un rendez-vous incontournable, c'est vraiment le symbole du plus grand événement.
Oui, et puis j'ai la chance de ne plus travailler, donc évidemment, j'ai du temps.
Ah, cette année, il y a eu une couverture remarquable aussi sur Canal que sur France Télévisions.
Oui, je regarde beaucoup Canal, moi, je sais pas, je préfère les journalistes qui sont à Canal, mais ça, c'est un choix personnel. J'ai vu de bons Jeux Olympiques et j'ai vu de très bons comportements français. 40 médailles, je trouve ça très très bien, y compris même si on n'a que 7 médailles d'or parce que tout le monde hochera la tête. Mais il faut aussi voir que beaucoup de nations maintenant arrivent à haut niveau, ce qui n'était pas il y a une quinzaine d'années. Et il y en a qui se sont joués à un demi-doigt. Mais moi, je suis assez satisfait de ce que j'ai vu.
Oui, alors de toute façon, on va rentrer dans le détail. Hervé, lui, nous a accompagnés pendant les Jeux. Donc Hervé, c'est pareil. On a dit dans nos commentaires qu'on avait eu des Jeux d'un haut niveau athlétique. On va en parler, mais c'est vrai quand même. Des Jeux où on bat à la fois des records du monde, du 100, 200, plus où on gagne 8 médailles en natation, plus 40 médailles pour la délégation française, ça marque quand même.
Oui, tout à fait. Bon, pour revenir aux 8 médailles de Michael Phelps, bon, ça c'était un peu annoncé, on va dire. C'est vrai que c'était pas gagné, mais bon,
annoncé,
voilà.
Faire.
C'est oui, bien sûr, mais je veux dire,
c'est encore du monde,
un peu moins surprenant que par exemple Bolt, qu'on n'attendait pas forcément avec ses 3 médailles d'or et ses 3 records du monde, même si. Pour moi, attention, l'homme des Jeux, c'est d'abord et avant tout Michael Phelps, qui rentre dans l'histoire avec ses 14 médailles en 2 Jeux Olympiques, voilà, et 8 en une seule édition, c'était jamais arrivé. Et puis, c'est vrai que, bon, pour revenir à la délégation française, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Je vais pas dire que c'est extraordinaire, mais C'est quand même pas mal, parce que comme à chaque fois aux Jeux Olympiques, il y a des gens qu'on attend et qui déçoivent, et inversement, il y a des médailles qu'on n'attendait pas du tout, qu'on a vu arriver. Je pense par exemple à Torres au niveau du tir, ou des gens qui sont un peu plus surprenants. Si on compare les deux, moi je trouve qu'on n'est pas si mal que ça. Bien sûr qu'on aurait pu faire mieux, bien sûr.
On peut toujours faire mieux.
Bien sûr, mais je veux dire, on n'est pas si mal que ça. Bon, après le classement, il se fait, on le sait, par rapport au CIO, le classement se fait sur les médailles d'or. Si on regarde que les médailles d'or, effectivement, on est dixième. Si on regarde le total des médailles, on est septième. Septième, c'est notre place, on va dire, à peu près habituelle, souvent aux Jeux Olympiques. Et puis lorsqu'on regarde les pays qui sont devant, bon, bah, il y a la Chine, il y a les États-Unis. Non, mais je veux dire, bon, il faut.
Et si on divise par nombre d'habitants, c'est pas mal.
Il faut,
hein,
voilà. Oui, alors à ce jeu-là, il y a un pays qui écrase tous les autres, c'est la Jamaïque. Hein, voilà. Donc, je veux dire, il faut relativiser. On n'a pas remporté si souvent que ça 40 médailles aux Jeux Olympiques.
Les meilleurs résultats, c'était en vert, hein, je crois, 1920.
Voilà. Non, mais sans. Je parle depuis. Sans parler, sans remonter avant la première partie du siècle. Voilà, c'est pas arrivé si souvent que ça. Donc, je pense qu'il faut quand même. On n'est pas si mal que ça. C'est quand même un bilan globalement positif, même si effectivement, si on prend au cas par cas, il y aura toujours des déceptions. Je pense par exemple, à Mehdi Bala sur le 1500 mètres en athlétisme, où on était certain qu'il allait avoir une médaille, mais bon, il y a eu d'autres déceptions.
Oui, Stanguet,
c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai que si on regarde par contre, alors si on voulait faire un autre classement un peu plus humoristique, je pense qu'au niveau des quatrièmes places, on doit pas être mal. Hein.
Je crois qu'il y avait, c'était Séoul, hein, où on a vu un nombre record de quatrièmes places aussi, Jacques.
Ouais.
On a eu l'occasion d'en parler. Et c'est vrai.
Ouais.
Que...
Alors moi, je partagerai pas forcément votre enthousiasme. C'est le débat. Ça. Donc, bon, moi, j'ai eu l'occasion de vivre, de visu les autres Olympiades. Alors, c'est vrai, 40 médailles. Alors après, on peut critiquer au niveau du classement par rapport aux médailles d'or et autres. Mais soyons honnêtes, respectons un petit peu le règlement. C'est si on se reporte des Olympiades précédentes où on avait eu 30 médailles, mais on avait eu 10 médailles d'or, on se retrouvait 7e nation. Donc je pense que bon, c'est comme ça. Il y a un coup, ça nous arrange, un coup, ça nous arrange pas. Les Américains, c'est pareil. Hein, cette année, donc critiqués parce qu'ils avaient plus de médailles que les Chinois, ils se retrouvent que 2e.
Ouais.
Voilà. Ouais. Moi, je ferai le constat. Il y a deux constats qui font que je partage pas forcément 100%. Je crois que c'est déjà le zéro pointé qu'on a en athlétisme. Enfin, le zéro pointé. On a une médaille d'argent en athlétisme.
Je crois que ça cache la forêt.
Voilà. Les relais complètement. Je dirais, ils sont à la rue, quoi. Ils sont. Alors après, quand on voit les commentaires que les coureurs font, bon, je me dis qu'est-ce que ces gens-là, ils viennent faire aux Jeux Olympiques. Oui. Donc moi, là-dessus, je peux pas cautionner ce genre de choses. Et puis j'ai eu à suivre. Donc j'étais à l'étranger, donc j'avais peut-être pas forcément Canal+ ou France Télévisions pour suivre, mais j'avais d'autres commentaires. C'est de voir un petit peu les réactions de certains athlètes. Bah oui, bah j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, moi ça me navre ça, parce que on part à une Olympiade, on a la chance de porter les couleurs de la France, d'aller les défendre. Je pense à notre triathlète à Bellobre. Oui. Bon, il termine dixième. Je sais pas, moi je comprends pas. Il dit bah oui, j'en pouvais, ça allait pas. J'étais bon. Non, enfin, tu te défends. Je préfère 100 fois voir les réactions du boxeur qui est volé.
Franchement volé.
Qui a été volé. Le gamin, il pleurait et tout, mais le gars, enfin, on voyait, il était là, il venait pour se battre, il venait pour gagner. Bon, ça, c'est un beau comportement. Il fait médaille de bronze. Bon, mais je pense que on a un petit peu aussi travaillé le culte d'essayer de vouloir essayer de battre des records. Estanguet, Laura Fessel, je pense que on envoie la balle des athlètes pour gagner, pas pour remplir un curriculum vitae et autres.
Donc ça, moi, ça. Fessel, elle est pour gagner quand même. Vous n'allez pas pour remplir.
Elle était
peut-être en fin de carrière, mais ouais. Estanguet était encore au top. Hein. Avec Martican, il se battait quand même assez souvent.
Ouais. Il y avait un coup, il a gagné, un coup, il a perdu. Il a gagné les championnats du monde.
On ne peut pas rester sur la plus haute marche tout le temps.
On est bien d'accord. On est bien d'accord.
Surtout 3 titres consécutifs de champion olympique.
Au moins, Estanguet, on ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être battu par rapport à certains.
Moi j'ai vu sa course,
moi ce que je constate, c'est que donc il y a ce constat peut-être de comportement de certains athlètes. Ensuite c'est le conditionnement dans lequel on prépare les athlètes. Moi on a parlé de la Chine, l'Amérique. L'Angleterre, elle fait quatrième quand même. Et l'Angleterre, elle fait quatrième. Alors c'est vrai qu'ils ont fait, ils ont fait une razzia en vélo.
En vélo, oui.
Ils ont fait une razzia en vélo. Il y a quelques Olympiades, c'était nous qui faisions la razzia en vélo.
Tout à fait.
Alors posons-nous la question, pourquoi ? Alors quand on analyse un peu plus, les Anglais, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est il y a des privés qui ont financé, qui ont reconstruit
un vélodrome.
À l'identique de ce qu'il y avait à Pékin, et puis derrière ils ont financé pendant 4 ans
Manchester,
et derrière qu'est-ce qu'ils font, bah, ils raflent 8 titres sur 9.
Champion d'exception quand même,
soit, mais il n'y a pas que lui, hein, je dirais que l'équipe en poursuite et tout. Donc derrière je crois que c'est un collectif qui doit être mis en place, qui accompagne les athlètes, et puis on envoie là-bas non pas les athlètes sur un nom, sur une performance, on envoie là-bas les athlètes pour gagner. Ça, je crois, moi je dis que ça c'est quelque chose qui est très important, pas de copinage, pas... Alors il y a les minima olympiques à faire, c'est vrai, mais on voit qu'il y a des athlètes qui ont fait des minima, qui sont restés ici parce que bon, il y avait un quota à respecter, qui auraient peut-être fait mieux que d'autres, je sais pas, mais là moi je trouve que c'est quand même le reflet. On fait 40 médailles, c'est vrai que c'est bien, il y a plus de discipline.
Oui.
Que par rapport aux éditions précédentes. Alors, ce qui me navre aussi, c'est que le BMX, par exemple, on n'en a jamais parlé et on n'a jamais mis en avant. Il y a la conf de presse là-bas à Pékin. Il y a aucun journaliste qui va voir les sportifs. Et puis, à l'arrivée, moi, je trouve que je me souviens plus le nom de la fille qui a gagné, qui a la médaille d'or.
Ouais. Anne-Caroline
Chausson. Les journalistes viennent la voir. Elle dit, écoutez, vous permettez, je savoure ma victoire. Conf de presse, vous étiez pas là, donc vous attendrez votre tour.
Oui.
Je trouve ça quand même. Et puis, enfin, moi, je trouve que celui qui a été vraiment au niveau français, hein, qui a fait, bon, les handballeurs, bien sûr, puis Absalon.
Absalon. Au troisième tour, il avait déjà sa médaille, et de loin, parce que dominer à ce niveau-là, je trouve ça exceptionnel.
Et c'est un professionnel. Il est allé là-bas, donc
Il se prépare. Femme et lui travaillent ensemble pour ça.
Il s'est pris une claque.
C'est bien d'ailleurs.
Il s'est pris une claque
au championnat d'Europe.
Il s'est dit, bon, là je me remets en question. Il s'est mis au vert et tout. Et puis mon dernier truc, coup de chapeau à Jeannie Longo, parce que à 50 balais,
à deux secondes,
elle fait quatrième.
Elle a quand même couru dans un truc qui ne lui plaît pas, c'est le froid et la pluie.
Voilà.
Alors donc, que sur le chaud, ça aurait été
la motivation. Donc elle l'avait. Donc oui, je suis un petit peu moins enthousiaste que vous là-dessus.
Ouais.
Ceci étant,
on va revenir sur toutes ces performances et ces contre-performances. Mais pour l'athlétisme, c'est malheureux ce que je veux dire, mais il n'y a pas que l'athlétisme.
Non, mais et puis l'athlétisme.
Même si c'est les provinces.
Moi, je dirais que.
Non, mais je crois que globalement, on l'a dit, mes collègues l'ont dit, le niveau mondial a augmenté. Bon, on était là en judo, on était là en escrime,
ouais,
on était là. Pardon.
Comme d'habitude.